quelques personnes, jeunes ou plus âgées, qui voudraient ce soir donner de la joie devant les anges de Dieu dans le ciel. C'est quelque chose de fantastique, quelque chose d'extraordinaire, de penser que des enfants, des jeunes gens, des jeunes filles, et des gens plus âgés aussi, peuvent donner de la terre, de la joie dans le ciel. Une joie immense. De la joie au Seigneur Jésus, qui sur cette terre a tant pleuré à cause de nos vies, de nos péchés, parce que nous ne reflétions pas son image. Ne voudriez-vous pas être de ceux, de celles, qui dès leur jeunesse reflètent le visage de Dieu, qui soient des fleurs pour le Seigneur, épanouies pour lui? Parce que tôt ou tard, même la plus belle fleur dans ce monde, elle se fane. Oh, avant que nos vies soient fanées, donnons-les au Seigneur. Alors il y aura un miracle, elles ne se faneront pas. Elles demeureront belles jusqu'au soir de la vie. Vous avez vu ces visages de vieillards, de grands-mamans, qui ressemblent à des visages d'anges comme celui d'Étienne, parce qu'il y a la paix sur leur visage, il y a la sérénité. Et quand elles pensent, ces âmes, au moment de la mort, elles n'ont pas de crainte. Et elles se réjouissent parce qu'elles sont attendues là-haut, et elles sont connues de là-haut. Parce que quand elles étaient jeunes, elles ont donné de la joie au ciel. Les anges étaient heureux. Eh bien, c'est ma prière. La prière que je fais là dans ma tour, seule dans la nuit, priant pour chacun de vous, vous aimant comme vous êtes, parce que l'amour qui doit habiter dans nos cœurs, ça doit être l'amour de Dieu. Alors Dieu nous aime comme on est, avec toutes nos tendances, mais il peut nous changer, parce que nous ne sommes pas si heureux d'être ce qu'on est. On voudrait être ce que lui veut qu'on soit, ce pourquoi lui, il nous a créés. Alors nous voulons être dans cette disposition, ce soir, pour lire et méditer cette parole, qui nous invite à devenir ses témoins, et on a peu de jours pour l'être. Dieu notre Père, nous voulons te demander que la fin de cette journée soit plus heureuse que n'a été son commencement, et que vraiment nous puissions éprouver ce que dit ta parole, au temps du soir, il y aura de la lumière. De la lumière dans les cœurs, de la lumière dans les yeux, de la lumière sur notre sentier, afin que nous ne trébuchions pas et que nous connaissions les voies qui mènent à la vie. Pour ta seule gloire. Amen. Bien, ce dimanche 9 juillet, nous poursuivons notre thème « Vous serez mes témoins » en ayant comme toile de fond le livre des Actes. Et je pense que vous tous qui n'avez pas participé à notre premier camp, vous aurez compris que pour jouir pleinement de ce second camp, il est important que vous fassiez pendant ces jours la lecture des 14 premiers chapitres qui nous ont occupés. Parce que si on lit un livre à son milieu, il y a quelque chose qui manque. Et nos campeurs et campeuses qui sont partis nous ont dit que eux, ils allaient lire les 14 chapitres que nous sommes en train d'étudier, pour être en communion avec nous et que le camp pour eux se prolonge aussi, puisqu'ils ont appris comment on pouvait lire et comprendre la parole du Seigneur quand on est seul. Ce soir donc, nous avons à considérer ensemble le chapitre 16 des Actes. Et les enfants, les petits qui étaient avec nous à la clairière des Indiens, eh bien nous ont donné la réponse au sujet de la ville mystérieuse. Un petit garçon a dit que c'était la ville de Philippe. Et puis, dans cette ville, il a pu dire qui étaient ces deux hommes qui, à minuit, chantaient des cantiques. C'était, vous savez, Paul et Silas. C'était Paul et Silas qui avaient été battus, comme nous allons le voir, et qui, au lieu de se plaindre, au lieu de gémir, comme nous le faisons toujours nous-mêmes, la plupart du temps, un petit bobo, nous sommes gémissants. Eh bien, eux, ils chantaient les louanges du Seigneur. C'est ça le témoignage. Ces chrétiens qui se plaignent du matin au soir, de tous les maux possibles, chacun en a son cancer, chacun en a son dos qui fait mal, n'est-ce pas? On est plein de misère. Mais alors, les gens du monde disent, alors ces gens-là, qu'est-ce qui les différencie de nous? Toujours à se plaindre. Alors qu'un croyant devrait avoir toujours la louange sur ses lèvres. Et quand la louange est sur nos lèvres, tout va mieux. On ne sent plus ses misères et ses douleurs. Et c'est cela un témoignage. Nous étudions ce que c'est qu'un témoin. Et un témoin, c'est un homme qui a un témoignage. Et on s'en rend compte. Et plus vous serez dans les épreuves, plus vous resterez dans la paix et dans la confiance au sein même de l'épreuve, sachant que le Seigneur ne vous abandonne pas, il ne peut pas vous abandonner, il ne peut pas vous laisser. Eh bien, c'est dans la mesure où vous serez éprouvé que votre témoignage sera grand et sera fort. Et c'est pourquoi bien souvent, le Seigneur nous permet que nous soyons dans l'épreuve pour qu'il y ait un témoignage rendu par nos vies. Et je pense maintenant que vous commencez à saisir comment le Saint-Esprit a voulu nous conduire pour que, dans le temps des deux camps que nous vivons, nous puissions couvrir tout ce livre des Actes des Apôtres qui contient combien de chapitres? 28. Hein? Et nous vous disions que la division naturelle de ce livre va du chapitre 1er au chapitre 12e. Cette première partie nous présentait la fondation de l'Église. Du chapitre 1er au chapitre 5, nous voyons que l'Église a été fondée dans quelle ville? À Jérusalem. Et du chapitre 6 au chapitre 12, nous avons vu que l'Église passait des Juifs chez les païens et quelle fut la ville où, au fond, le témoignage parmi les païens s'est établi et qui a été le point de départ des voyages de Paul, c'est la ville d'Antioche. Et c'est dans cette ville qu'on a nommé pour la première fois les disciples de Jésus, des chrétiens. Hein. Et la deuxième partie, elle va donc du chapitre 13 au chapitre 28 et nous conduit d'Antioche en Syrie jusqu'à Rome, la capitale de l'Empire de ce temps-là. Et cette deuxième partie nous retrace les voyages et le ministère de l'apôtre Paul, ses captivités à Jérusalem, à Césarée et à Rome. C'est donc tout ce que nous allons voir. Mais pour ces temps familiaux, le Seigneur nous a convaincus que nous devions prendre le livre des Actes comme toile de fond de tous nos messages. Et c'est cela qui nous a conduit à ajouter les chapitres 13 et 14 à notre premier camp, afin de donner aux campeurs de ces premiers séjours un aperçu du premier voyage missionnaire de Saul de Tarse, dont nous avions étudié la conversion au chapitre 9e. Alors, ces 14 premiers chapitres nous donnaient 519 versets à étudier et les 14 derniers, 487 versets, soit un total de 1006 versets. Ce matin, nous avons donc survolé le chapitre 15, où nous avons pu nous faire une idée de ce que fut ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem, ou si vous préférez, quoi, la Conférence de Jérusalem. Hein. Nous avons vu l'occasion qui a provoqué cette conférence à Jérusalem et quel fut l'objet capital de cette conférence. À Antioche, donc, il y avait des personnes qui étaient venues de Jérusalem et qui enseignaient les frères en disant que pour être sauvé, qu'est-ce qu'il fallait ? Qu'il soit circoncis. Et au fond, ça voulait dire qu'il fallait être d'abord juif pour être sauvé. Il fallait être comme les juifs qui étaient circoncis. Alors, quelle devait être la position de l'Église vis-à-vis des païens ? C'était cela la grosse question. Alors, nous avons pu prendre connaissance des débats qu'il y eut à Jérusalem, puis du discours de Pierre qui fut suivi du témoignage de Paul et de Barnabas. Puis, nous avons vu l'intervention de quel homme ? De Jacques, qui était un frère du Seigneur, n'est-ce pas, qui s'était converti. Et tout cela aboutit à l'envoi d'une lettre aux églises de Syrie et de Cilicie. Elle fut portée par les délégués de Jérusalem, Jude et Silas, qui accompagnaient Paul et Barnabas, qui furent reconnus comme des fidèles témoins de Jésus-Christ. Alors à la fin du chapitre 15, c'est pour lier tout cela, nous avons constaté qu'il y avait subitement un différent qui a opposé quels hommes ? Barnabas et Paul. Paul qui se préparait à faire un second voyage missionnaire. Et ce second voyage missionnaire, il vous est montré sur cette carte. Je sais que c'est très petit ce qui est écrit là, mais je voudrais juste vous montrer donc de Jérusalem pour porter la lettre à Antioche. Ils ont fait tout ce chemin, hein, pour avoir des filets, pour faire des sondages, et ils sont arrivés à Antioche, où ils sont restés. Et puis, Paul se propose un nouveau voyage missionnaire avec Barnabas, mais il y a entre eux un différent, parce que Barnabas voulait reprendre comme compagnon son neveu Marc, Jean-Marc, et Paul trouvait que ce Jean-Marc qui s'était découragé lors du premier voyage et qui était retourné chez sa maman, eh bien, il ne fallait pas le prendre. Alors, le différent entre Paul et Barnabas a été si grand que Barnabas est parti avec son neveu ici, à Chypre. Hein. Il était cypriote. Ils sont partis les deux là et Paul a pris comme compagnon ce Silas qui était venu de Jérusalem pour apporter la lettre avec eux, et ils sont partis, ils ont voulu commencer ce voyage, ils ont passé par Tarse, d'où était né Paul, ils ont traversé la Cilicie, ils sont arrivés à Derbe, c'est ce que vous voyez un petit peu les noms que vous trouvez dans vos livres, à l'Istre, où Paul avait été lapidé lors de son premier voyage, et où ils ont retrouvé un jeune homme qui s'appelait Timothée, qui s'est joint à eux. Ils l'ont pris avec eux, ils sont allés à Iconium, et puis ils ont continué leur voyage jusqu'à Antioche de Pisidie, où ils étaient déjà venus. Et alors là, ils se sont proposés d'aller par la Galatie, et puis passer par la Bithynie. Ils ont essayé d'aller en Bithynie, puis l'Esprit de Jésus ne l'a pas permis. Ils ont voulu traverser la Mysie, et ils sont arrivés à Troas, et puis ils ont, de Troas, ils ont passé à Samothrace, à l'île de Samothrace, et en une journée, ils ont rejoint Néapolis, puis de Néapolis, ici, parce que là, ils ont pris le bateau, hein, alors ça allait plus vite, parce que sans ça, c'est long le voyage, hein. Et de Néapolis, ils sont arrivés à Philippe. Voilà le voyage que nous faisons dans le chapitre 16 des Actes. Départ d'Antioche, je vous le montre avec la baguette, même si vous ne pouvez pas lire, ça suffit de vous montrer ce que c'était que les voyages de l'apôtre Paul et de ceux qui l'accompagnaient. Pour arriver à Philippe, c'était la première ville d'Europe qui allait entendre l'Évangile et où on peut apprendre à connaître les premiers convertis d'Europe, les premières personnes qui ont donné de la joie dans le ciel. Et qui était la première personne qui a donné de la joie dans le ciel, dans cette ville de Philippe? Comment s'appelait-elle? Lydie. Lydie. Et qu'est-ce qu'elle était? Une commerçante. Elle était marchande de pourpre. Elle vendait ce tissu et puis elle avait une maison spacieuse. Elle était mère d'enfants et c'est elle qui a donné d'abord sa maison pour qu'on puisse se réunir dans cette ville de Philippe où les apôtres venaient d'arriver. Alors, nous allons prendre maintenant ce chapitre 16. J'espère que vous avez vos Bibles. Ceux qui n'en avaient pas, je vous ai offert, mais on ne va pas vous forcer de les prendre. Je vous ai offert la portion des Actes des Apôtres pour que vous puissiez suivre, parce que ça vaut la peine. Pas de m'écouter, je ne vous demande pas d'assister à mes réunions. Mais j'aimerais que vous ayez eu au moins l'occasion d'entendre la parole de Dieu. Sans cela, ce camp n'est pas pour vous. Le camp, il est pour ceux qui veulent entendre la parole de Dieu. Et quand on dit qu'on est au Seigneur, ou qu'on a fait déjà le pas, et qu'on a été baptisé, eh bien, il est normal qu'on assiste à ces réunions. Vous avez tout le temps pour courir, pour être à toutes les activités, mais c'est une des conditions qui, depuis 20 ans, la seule chose qui est obligatoire pour ceux qui en ont l'âge, eh bien, c'est d'assister à la réunion. Je le dis une fois pour toutes et je n'y reviendrai pas. Donc, vous avez, si vous le voulez, la possibilité de suivre dans vos Bibles ou dans l'opuscule qui est ici. Et nous allons voir pourquoi c'est valable de prendre ce petit opuscule parce que les mots sont plus simples. Donc, à la fin du chapitre 15, nous avons vu ce différend qui a opposé Paul et Barnabas parce que, au fond, ils n'étaient pas d'accord au sujet d'un troisième homme qui était ce Jean, ce jeune Jean, surnommé Marc. Et je vous dirai que c'est la cinquième épreuve que nous voyons dans l'Église primitive en dehors des persécutions des premiers chrétiens. La première épreuve qui a troublé l'Église, c'est quoi? Ananias et Saphira, qui ont prétendu qu'ils faisaient un don et ils ont fait une dissimulation. Ils ont menti au Saint-Esprit. Quel a été le résultat? La mort. Hein. C'est comme ça que la chose a été réglée. Ils sont morts. On ne ment pas. On ne fait pas semblant d'être un croyant. On l'est ou on ne l'est pas. Ou alors, si on est croyant, on est conséquent et on dit la vérité. Et dans l'Église primitive, quelqu'un qui mentait, il pouvait mourir. C'était un exemple. La deuxième épreuve est venue au chapitre 6 des murmures. Tout le monde était pourtant heureux dans l'Église primitive et tout à coup, à cause de certaines négligences, les apôtres ne pouvaient pas tout faire. Eh bien, il y a des personnes qui ont été négligées. C'était des veuves. Hein. Et puis, alors, on s'est plaint et il y a eu du trouble. Et les apôtres ont réagi et ils ont réglé la question. Comment? En instituant les diacres. Ils ont choisi cet homme qui s'occuperait vraiment sérieusement de ces tâches-là. Mais c'est cet homme qui devait servir aux tables. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il soit? Rempli de quoi? Rempli du Saint-Esprit, rempli de foi, qu'ils aient un bon témoignage de tous. Donc, pour faire les tâches les plus humbles, il nous faut le Saint-Esprit. Et nous voyons que parmi ces sept hommes, il y en avait deux dont on a appris à mieux connaître la vie. C'est le nom de deux diacres, Étienne et Philippe. Étienne qui est parti vers le Seigneur, lapidé, mais heureux, son visage resplendissait comme celui d'un ange. Il avait aimé le Seigneur jusqu'à la mort. Et il fut un témoin, un vrai témoin. Puisque témoin veut dire martyr. Philippe, lui, a été épargné, mais il a dû s'enfuir de Jérusalem. Mais au lieu d'aller se cacher, il est allé en Samarie, qui était pourtant des ennemis du peuple juif aussi. Et là, il a annoncé l'Évangile. Voilà comment fut réglé donc le conflit des murmures par l'institution des diacres. Maintenant, une troisième épreuve, c'est quand l'apôtre Pierre est revenu de Césarée où il avait été envoyé d'une façon spéciale par le Seigneur. Il était sûr d'avoir fait la volonté de Dieu en allant chez ce centurion païen et il avait annoncé l'Évangile là aux païens et le Saint-Esprit était descendu sur les païens. Mais quand il est remonté à Jérusalem, parce qu'un juif ne devait pas, selon les coutumes, manger chez les païens, les frères de Jérusalem ont repris l'apôtre Pierre et lui ont fait des reproches. Donc vous voyez que la communion dans l'Église primitive a eu des mauvais moments à traverser. Alors ce fut les reproches des collègues de Pierre. Mais Pierre s'est expliqué. Il a raconté à tous comment Dieu l'avait visité et lui avait dit d'aller faire cette mission. Alors tout le monde s'est calmé et la paix est revenue. Mais ensuite, il y a eu cette quatrième épreuve qu'on a vue ce matin à Antioche. C'était les disputes doctrinales. Des gens étaient venus pour enseigner que pour être sauvés, eh bien, il fallait être circoncis. Si tu n'es pas circoncis, eh bien, tu n'es pas sauvé. De sorte que, comment a été résolue cette quatrième épreuve? Par la conférence de Jérusalem, où on est allé en délégation demander à ceux de Jérusalem ce qu'ils pensaient de cette affaire. Et puis, la question a été réglée par cette fameuse lettre qui disait ce qui était juste nécessaire, mais qu'on n'était pas sauvé par l'observation de la loi, puisque les Juifs eux-mêmes qui demandaient que les païens soient circoncis n'avaient jamais pu accomplir cette loi. Et alors, la cinquième épreuve, c'est justement ce dissentiment qu'il y eut entre Paul et Barnabas. Nous sommes maintenant à pied d'œuvre et nous pouvons commencer notre lecture rapide de ce chapitre 16. Il se rendit Je prendrai déjà depuis le verset 40. Paul donc fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Donc il semble que les frères d'Antioche ont approuvé le choix qu'avait fait Paul en prenant Silas comme son compagnon. Il n'est pas dit ce qu'ils ont fait au sujet de Barnabas et de Marc, mais enfin nous lisons un peu avant que Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Ça a dû être une grande peine pour Paul et aussi pour Barnabas de se séparer, parce qu'ils avaient travaillé ensemble, et Barnabas, comme on l'a vu, avait manifesté beaucoup d'affection, beaucoup de confiance à ce Saul de Tarse, et puis maintenant, ils doivent être séparés. Quand il y a une séparation entre frères, qu'est-ce qui s'en réjouit? C'est Satan. Alors nous devons dire non à la division, le plus possible. Mais nous voyons que Paul, plus tard, a revisé son jugement et a réclamé Marc. Donc tout s'est bien terminé à la fin et Marc a servi aussi l'apôtre Paul. Alors verset 41, Paul parcourut avec Silas la Syrie et la Cilicie. Alors je vous ai montré cela, la Syrie et la Cilicie. Hein. La Syrie ici, et puis maintenant, la Cilicie est là. Ils ont parcouru la Syrie et la Cilicie. Et ils sont arrivés à Derbe et à Lystre, Lystre où il avait été lapidé. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée. C'est absolument passionnant quand on connaît que Paul a écrit finalement combien d'épîtres à Timothée? Deux épîtres à Timothée. Et il appelle Timothée son enfant dans la foi. Et ce Timothée, il est dit qu'il était un disciple, fils d'une femme juive, fidèle, donc qui était croyante, et d'un père grec. C'était un mariage mixte. Il y en avait déjà de ce temps-là. Alors, cet enfant, Timothée, né d'une femme juive croyante et d'un père païen, il avait été élevé par qui? Qui est-ce qui doit élever l'enfant et lui donner le plus possible dans la vie familiale? S'il y a un couple où un est croyant et l'autre n'est pas croyant. C'est le croyant, hein? C'est celui qui a le plus de foi, le plus d'amour et le plus de connaissances bibliques qui doit influencer son enfant. Il ne faut pas dire, oh bien, moi j'ai épousé un homme qui n'est pas croyant, eh bien c'est son père, eh bien je le laisse aux soins de son père. Non, c'est la personne dans le foyer qui est le plus près du Seigneur, qui doit prendre la responsabilité de l'éducation de son enfant. Alors, cette femme qui avait peut-être commis une infidélité à un moment donné, elle s'était ressaisie, et puis, elle a élevé Timothée dans la foi. Elle prenait son enfant à la synagogue, où l'on parlait du Seigneur, où l'on était instruit dans les vérités de l'Écriture. Parce que si elle n'avait pas pris son enfant avec elle dans la synagogue, jamais l'enfant Timothée n'aurait rencontré l'apôtre Paul. Et si vous ne prenez pas vos enfants aussi dans les rencontres spirituelles, eh bien, ils risquent de ne jamais rencontrer le Seigneur. Parce que, ça c'est une chose très importante, que les parents doivent comprendre. Bien sûr, les enfants, ils aiment mieux aller ailleurs. C'est vrai, mais enfin, quand on est enfant, on est encore sous le régime de nos parents et nous devons leur obéir. Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste, hein. C'est le premier commandement avec promesse. Et les enfants seront bénis de la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous croyez que c'est normal que dans ce Québec, dans le monde entier, il n'y a pas un pays comme le Québec, dans le monde entier, où les enfants se suicident? C'est le pays du monde entier, hein, Vous aimez bien être sur la map, hein, comme vous dites, sur la carte de géographie, qu'on parle du Québec. Eh bien, on parle du Québec dans le monde entier pour dire, c'est dans ce pays-là, qui était pourtant très croyant, très catholique, c'est dans ce pays-là qu'il y a le plus de suicides d'enfants qui n'ont pas 12 ans. Ou de jeunes qui n'ont pas 20 ans. Est-ce que c'est normal qu'on se suicide à ce moment-là? Parce qu'on a tout connu avant le temps, parce qu'on s'est moqué de tous les principes, on a tout rejeté, et puis après, on n'est plus qu'une loque. À 20 ans, alors que la fleur devrait être épanouie, elle est déjà fanée. On n'espère plus rien que dans la mort. Alors, mes chers amis, parents ou enfants, soyons sérieux, on ne se moque pas de Dieu. Et là, nous avons un enseignement, même une femme qui avait épousé quelqu'un qui n'était pas de la religion juive, elle s'est ressaisie, elle a voulu que son fils soit élevé dans la foi. Et puis, elle avait une mère, cette femme. Comment s'appelait cette mère d'abord de Timothée et la grand-mère? Eunice et Loïs, vous avez ça. Et dans ses lettres à Timothée plus tard, Paul dit, tu te souviens, tu as appris les saintes lettres, on t'a enseigné ces choses dès ton enfance. Ta mère Eunice et ta grand-mère Loïs. Il y a une tâche pour les grands-mères. Vous ne devez pas vous dire, ben maintenant moi j'ai fini ma tâche. Puisque vous êtes en vie, grand-maman, si vous y a des grands-mamans, eh bien, prenez à cœur vos petits-enfants et dites-le à toutes les grands-mères du Québec qu'elles prennent à cœur l'éducation des petits-enfants pour contrebalancer ce qui leur est enseigné dans les écoles d'un État et qui se corrompt de plus en plus. Eh bien, mes frères et sœurs, nous avons un enseignement dans ce premier verset. Voilà comment on doit lire la Bible. Voilà comment ces paroles, quand on les trouve, on doit les manger pour qu'elles fassent l'allégresse et la joie de notre cœur. Il y avait, oui, un disciple Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône, donc une église plus loin, rendaient de lui un bon témoignage. Alors, comment est-ce que ce jeune homme a-t-il connu Paul? Bien, je pense qu'il avait été là quand Paul avait fait sa première visite à Lystre et il connaissait très bien cet homme qui avait été guéri parce que tout le monde connaissait cet impotent qui n'avait jamais marché. Il y avait là, au chapitre 14, l'histoire de cet impotent des pieds boiteux de naissance qui n'avait jamais marché. Tout le monde connaissait le boiteux de naissance qui n'avait jamais marché. Et il est dit qu'il écoutait parler Paul. Alors, je pense qu'il y avait là aussi le petit Timothée. Il était encore un enfant, un jeune homme, peut-être. Et il a écouté parler Paul. Puis, il a vu Paul regarder cet impotent et lui dire, lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et il marcha. Il avait vu ce miracle. Et alors, évidemment, son cœur avait cédé et il l'avait donné au Seigneur. Et Paul, après, il avait été rejeté, lapidé. Et je pense que il était allé avec sa mère pour enterrer Paul qu'on voyait mort sur le chemin, lapidé comme Étienne l'avait été. Et figurez-vous qu'il avait vu l'apôtre Paul qui était là couvert de sang par les pierres. Tout à coup, il se lève. Pas d'enterrement. Hein. C'est lui qui se lève, puis s'en va prêcher plus loin. Ça marque une jeune vie. Il avait vu tout cela. Paul était parti et Timothée avait grandi. Et il était resté fidèle. Les conversions des jeunes, ce sont des conversions qui durent. Mon père avait 9 ans quand il s'est donné au Seigneur. Il est mort à 80 ans. Et je bénis Dieu qui m'a donné ce père et cette mère qui m'ont enseigné dans la foi. et qui m'ont enseigné la parole, qui m'ont éduqué dans la parole, qui ne m'ont pas toujours dit oui pour me faire plaisir, qui ont su aussi me corriger et me punir, parce que nous en avons besoin si nous voulons grandir dans les voies du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour les parents qu'il m'avait donnés et qui sont maintenant auprès de lui, et qui avaient prié pour moi avant ma naissance, en disant à Dieu, si tu nous donnes un fils, il leur avait donné une fille, eh bien si tu nous donnes maintenant un fils, nous te le consacrons pour qu'il soit à toi dès son enfance et qu'il travaille pour toi, mais pas seulement pour un groupe religieux, mais pour tous les hommes. Et figurez-vous qu'il y a 3 mois, alors que j'étais en France, j'ai vu une vieille dame de 80 ans qui m'a dit, vous savez, cher ami, je connais bien votre histoire parce que j'ai visité un jour vos parents et ils m'ont raconté comment ils avaient prié pour vous avant votre naissance. Et alors j'étais très ému de rencontrer cette femme au soir de la vie qui pouvait me confirmer ce que mes parents m'avaient dit, nous avons prié pour toi. C'est quelque chose d'avoir des parents qui, j'entends encore mon père qui me disait quand j'étais jeune, j'aimerais mieux que tu sois ramoneur. Vous êtes un ramoneur? Quelle couleur est-ce qu'il a? Noir, hein? C'est pas un grand métier de ce temps-là, hein? Ramoneur, on allait dans les cheminées pour ramoner, pour enlever la scie. Hein? J'aimerais mieux que tu sois ramoneur sur la terre et que tu te retrouves au ciel. Hein? Plutôt que tu sois un homme important et que tu sois perdu pour le ciel, parce que tu as voulu seulement gagner de l'argent, tu as voulu être dans le monde, avoir des honneurs dans le monde, et tu n'as pas aimé le Seigneur, et tu n'as pas servi le Seigneur. Bien, vous savez, je vois encore le chemin où mon père me disait ça, il était horloger, lui, et c'est pour ça qu'on aime être à l'heure, hein. Eh bien, ce papa qui me disait ça, « Gaston, j'aimerais mieux que tu sois ramoneur. Enfin, moi, je voulais faire des études. J'aimerais mieux que tu sois ramoneur, mais que je te retrouve au ciel. » Eh bien, oui, ce sont des choses qui nous marquent. Alors, nous revenons à notre texte, hein, mais j'ai voulu vous montrer que cette parole nous sert. Alors, Paul, au verset 3, voulut emmener ce jeune homme avec lui, et l'ayant pris, alors il le circoncit. On se dit, mais alors pourquoi est-ce que Paul a circoncis Timothée? Mais parce que Timothée était fils d'une juive. Et Paul a pensé, sans vouloir judaïser, sans vouloir se mettre sous la loi, mais que ça rendrait plus service à Timothée s'il était circoncis. Eh bien, c'était un obstacle aussi qui était enlevé à son témoignage parmi les juifs. Et il l'a circoncis à cause des juifs qui étaient dans ces lieux-là, pas pour qu'ils soient sauvés par la circoncision, mais puisque c'était là la coutume chez les juifs, il l'a circoncis pour qu'on n'ait plus à parler de ça, car tous savaient que son père était grec. Donc, on aurait dit, oui, enfin, c'est un païen. Comme ça, il était comme les juifs. Et c'était la règle que Paul suivait. Hein. Il se faisait tout à tous, hein, avec les juifs, comme s'il était et avec les Grecs comme s'il était grec. C'est ce que nous trouvons dans l'Épître aux Corinthiens. Verset 4. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les déclarations des apôtres et des anciens de Jérusalem. Qu'est-ce que c'était ces déclarations? On les a lues dans la lettre du chapitre 15, hein, de la conférence de Jérusalem. Et verset 5, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Puis c'est là que vous voyez, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie, que je vous ai montré là, et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, et qui est là-haut, n'est-ce pas? Il pensait aller là. Et puis, il est dit que l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Alors, ils franchirent la Mysie et descendirent à Troade. À Troade, et qui est là. Pourquoi? Parce qu'il y avait des portes qui se fermaient. La première fois que Paul a fait le premier voyage, c'était l'Esprit Saint dans l'Église qui avait dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le ministère que je leur ai confié ». Et c'était l'Esprit qui les avait dirigés dans le premier voyage. Dans le deuxième voyage, c'est Paul qui lui-même avait décidé son deuxième voyage. Il n'est pas dit que l'Esprit Saint lui avait donné une révélation, mais il a pris la décision de faire ce deuxième voyage sans Barnabas. Et alors, on voit que le Seigneur lui donne une certaine liberté, mais met des empêchements. Quand c'est nous-mêmes qui prenons une décision, si ce n'est pas la bonne, il met un empêchement. Et il nous faut être assez souples pour ne pas forcer les portes. Si la porte est fermée, malgré qu'on croyait que c'était là que nous devions aller, il ne faut pas forcer. Il faut être assez souple pour dire, eh bien, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais je suis disponible. Et on attend d'avoir une direction. Verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Vous savez, le Seigneur ne dort pas. Il ne veille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Et souvent, le Seigneur nous parle pendant la nuit. Eh bien, pendant la nuit, il a eu une vision. Il a vu un Macédonien. Ces Macédoniens qui étaient là, dans ce coin de pays, de la Macédoine, de la Grèce, là. Hein. Alors, il a eu une vision, un Macédonien lui apparut, et lui dit, il lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, là il entend le nom d'un pays, passe en Macédoine et secours-nous. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Secours-nous. Vous voyez, ça peut venir d'une nuit par une vision, secours-nous. Il sait où il doit aller. Alors, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et c'est là, au verset 10, que pour la première fois, nous avons la preuve que Luc était du voyage. Jusque-là, Luc, qui est l'auteur du livre des Actes, ce Luc, dont le nom veut dire lumineux, emploie le mot « nous ». Hein, parce qu'il ne parle jamais de lui, Luc. Ce qui me faisait dire dans le premier temps que l'auteur du livre des Actes était un homme très modeste, lors même qu'il avait des titres et qu'il était un médecin et un médecin bien aimé. C'est là que vous avez la preuve que c'est Luc qui a écrit. Après cette vision, Paul nous chercha aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Verset 11. Étant parti de Troas, alors Troas, je vous l'ai montré là, sur la carte ici, ils ont fait tout cela à pied, mais maintenant, ils sont au bord de la mer, nous fîmes voile. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris un bateau, puisqu'ils disent nous fîmes voile. Directement vers la Samothrace, c'est cette petite île qui est plus loin, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis, que je vous ai montré ici. À Néapolis, et ici, et puis ensuite, ils arrivent à Philippe. De là, verset 12, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine, et une colonie. C'est donc la première ville d'Europe. C'est comme ça que l'Évangile est entré en Europe. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Et alors, verset 19. Comment est-ce qu'on travaille pour évangéliser? C'est bon à savoir aussi pour aujourd'hui. Le jour du sabbat, puisque on savait que les Juifs se réunissaient s'ils avaient une synagogue, mais la colonie juive de cette ville était si petite qu'ils n'avaient pas même une synagogue. Mais on savait que les Juifs se réunissaient quand même. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte de la ville. Ils se réunissaient hors de la porte. Nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Il n'y avait pas même une salle, mais ils ont pensé que près de cette rivière, il y avait un coin tranquille où on pourrait trouver des gens qui priaient. Et alors, qui est-ce qu'il a trouvé? Ce grand apôtre Paul qui avait fait tout ce voyage, qui avait été empêché d'aller ici, empêché d'aller là. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Quand Paul est arrivé, il leur a dit, silence, 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 vous êtes des femmes. Pensez que c'était ça, Paul? C'est dans un tout autre contexte que Paul dit que vos femmes se taisent. Il n'est pas question de la prière. Il est question du bavardage. Ce bavardage qu'on entend si souvent au début des réunions et qu'on doit imposer le silence par un cantique. On peut se parler après, il y a d'autres moments pour se parler, mais quand on est dans la présence du Seigneur, c'est autre chose. Mais ne me dites pas que Paul a arrêté ses femmes. Il a trouvé que les femmes, où étaient les hommes? À la taverne. C'est là qu'on les trouve souvent, les hommes. Qu'est-ce qui maintient vraiment la spiritualité et la piété? C'est plutôt la femme. Et alors, ne me dites pas que Paul n'aimait pas les femmes. Vous me comprenez bien, quand je dis n'aimait pas les femmes, c'est pas n'importe quel amour. Hein. Mais, comme on le dit, hein, Paul n'était pas un misogyne. Ce n'est pas un homme qui détestait les femmes, au contraire. Lisez le chapitre 16 des Romains et vous verrez ce qu'il dit des femmes. Il parle de certaines femmes, il dit, je la considère comme ma mère. Il y en a d'autres, il dit, elles ont exposé leur vie pour moi. C'est touchant. Alors ne me racontez pas des histoires sur Saul de Tarse, sur l'apôtre Paul. Une fois converti, eh bien c'était un homme qui savait vivre et respecter la femme. Alors, ils n'ont pas dit, il y a des femmes hein? Je ne vais pas parler, moi. Je ne parle pas aux femmes. Quoi ça sert d'enseigner les femmes? Il n'a pas dit ça, non. Nous nous assîmes, donc ils se sont mis avec eux, les femmes. Et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, oh que c'est beau ça, nommée Lydie, marchande de pourpre, donc une commerçante, de la ville de Thyatire, était une femme qui craignait Dieu. Alors, une femme qui craignait Dieu, c'était donc une femme qui était autrefois païenne, mais qui s'était convertie au judaïsme, parce qu'elle elle avait découvert que le vrai Dieu, c'était le Dieu d'Israël, mais il lui manquait quelque chose. Et c'est pourquoi elle écoutait. Elle a écouté Paul. Et ça ne suffit pas d'écouter. Qu'est-ce qu'il faut encore? Vous voyez que on ne peut pas avoir des prétentions, nous les prédicateurs. Si quelque œuvre se fait dans une réunion, qui est-ce qui l'a fait? C'est le Seigneur. Hein? Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Et voilà, hein, même dans une réunion, vous pouvez être là, présente, et être tout ailleurs. Hein, parce que c'est très facile. Notre corps est dans la chaise, hein? Notre corps est dans la salle, mais notre esprit, comme le disait un jeune homme une fois il y a 50 ans, moi, quand j'arrivais, je regardais l'horloge, parce que j'étais obligé d'aller à la réunion, et je me disais, dans une heure, ça ira mieux. Alors je faisais un match de foot pendant toute la réunion. Il était tout ailleurs, hein? Il tapait en esprit sur son ballon, hein? Et puis, bon, il faisait tous les buts possibles. Puis au bout d'une heure, il avait usé le fond de ses culottes sur les bancs de l'assemblée. Puis les parents étaient très heureux. Oh, mon fils, il vient bien avec nous aux réunions. Mais son cœur n'y était pas. Hein? Alors, faisons attention. Disons-nous toujours que le Seigneur a un message pour nous aujourd'hui. Et vous savez, une fois que vous acceptez cette parole, vous verrez que vous l'aimerez. Mais c'est l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée, parce que vous voyez, ça est allé vite, une fois qu'elle a donné son cœur au Seigneur, elle voulait être baptisée, recevoir le signe du christianisme. Elle a reconnu qu'elle était morte à sa vie passée et qu'elle avait une vie nouvelle. Et elle fut baptisée avec qui? Avec sa famille, donc elle avait une influence sur ses enfants. Elle avait une influence sur les siens, sur sa famille. Et elle nous fit cette demande, ça c'est bouleversant. Si vous me jugez fidèle, dans la traduction ici en français courant, si vous pensez que je suis vraiment une croyante, hein, si vous pensez cela, hein, et que je suis fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison. Quand le cœur a reçu le Seigneur, on dispose aussi. Le Seigneur peut disposer de tous nos biens. Entrez dans ma maison et demeurez-y. Voilà la première salle d'évangélisation, la première salle de l'Église. C'est chez une femme qui s'appelle Lydie et qui était commerçante. Et elle nous pressa avec insistance, parce que on ne veut pas gêner, mais pas plus folle aussi, c'est vivre. Mais c'est elle qui dit, mais si vous pensez que je suis une croyante, ben voilà, prenez ma maison. C'est merveilleux, ça. Et alors de là, comme nous allions au lieu de prière, donc le samedi suivant, il y avait une servante qui avait un esprit de python. Alors, vous voyez, pourquoi j'aime ça? Qu'est-ce que c'est qu'un esprit de python? Si vous lisez ça, vous ne comprenez rien. Vous, ça n'intéresse pas un esprit de python. C'est un mauvais esprit. C'est un esprit qui vient de qui? De Satan. Alors, vous voyez, dans la traduction en français courant, eh bien, il est dit, un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une servante vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit mauvais qui la poussait à prédire l'avenir, et elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres en faisant des prédictions. Au fond, c'était une esclave. Et elle était possédée par un esprit démoniaque, un esprit de Satan, et on employait cette pauvre créature à prédire l'avenir, et on gagnait de l'argent avec elle. Mais elle était esclave de ces gens-là. Alors, tout d'un coup, cette fille, cette servante, se mit à suivre Paul et elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut. » Donc, elle disait une vérité. Hein. « Ils vous annoncent le chemin qui conduit au salut. » Elle disait aussi une vérité. Et elle fit cela pendant bien des jours. Alors, au fond, ça faisait une propagande pour Paul. Hein. Pourquoi est-ce qu'il l'a arrêtée? Est-ce qu'on laisse Satan faire de la propagande pour nous? Non. Or, il y en a qui disent, qu'importe, hein, pour l'Évangile, tous les moyens sont bons. Ce n'est pas vrai. Et vous avez ici la preuve que Paul est intervenu. Il a été irrité. À la fin, il en fut irrité et il se retourna et dit à l'Esprit, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle. Et l'Esprit sortit à l'instant même. Mais alors, quand l'esprit de Satan était hors de la servante, qu'est-ce qui arrivait? Elle était, elle, guérie, délivrée de tous ces tourments-là, mais elle ne pouvait plus prédire l'avenir. Elle ne pouvait plus rapporter de l'argent à ses maîtres. Et alors, vous voyez, le coup du diable, il peut vous avoir l'air de dire des vérités, mais c'est pour vous faire du mal. C'est pour entraver l'œuvre de Dieu. Alors ne vous servez jamais de Satan pour cela. Et quand Paul a fait cela, il était dans la voie du Seigneur. Parce que quand les démoniaques se jetaient aux pieds du Seigneur et qu'ils disaient, nous savons qui tu es, le Fils de Dieu, nous te connaissons, les démons connaissaient le Seigneur. Hein. Bien, qu'est-ce que le Seigneur disait? Taisez-vous, hein. Il les arrêtait et il ne voulait pas qu'on fasse de la propagande. Pour lui, il faisait taire les démons. Eh bien, Paul est dans la même ligne que son maître. Mais quand les maîtres, verset 19, de la servante, virent qu'ils ne pouvaient plus espérer gagner de l'argent grâce à elle, ils saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les autorités. Ils les amenèrent. Alors là, de nouveau, si vous lisez dans ce second, qu'est-ce que c'est? Ils les amenèrent. Verset 20. Ah oui. Ils les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Hein? Oui. Devant les autorités. C'est à peu près la même chose. Ils les présentèrent aux prêteurs. Alors on dit, qu'est-ce que c'est les prêteurs? En disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de gerbes. Eh bien, dans la version française courante, il est simplement dit, ils les amenèrent aux fonctionnaires romains. Et ils dirent, ces hommes créent du désordre, etc. La foule se tourna contre eux. Les fonctionnaires firent arracher les vêtements de Paul et de Silas et les firent battre de fouet ou de verge. Hein. Après les avoir frappés de nombreux coups, on les jeta en prison et l'on recommanda aux gardiens, donc aux geôliers, de bien les garder. Dès qu'il eut reçu cet ordre, le gardien les mit dans une cellule tout au fond de la prison et leur fixa les pieds, qu'est-ce qu'il est dit dans vos versions secondes? Dans des ceps. Hein? Alors, les gens ne savent pas ce que c'est que les ceps. Eh bien, là, dans le français courant, c'est dit dans des blocs de bois. Hein? Alors, c'est plus compréhensible, n'est-ce pas? Mais une fois que vous êtes plus cultivé, vous savez que le cep, c'est là qu'on... un instrument dans les prisons qui permettait de bloquer les pieds. Alors, c'est avec des corps battus, sanglants, que ces deux hommes ont été jetés en prison. On a mis les pieds dans des ceps, dans ces blocs de bois. On les a attachés avec des chaînes. Et ils étaient dans le cachot le plus profond. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, au lieu de gémir, au lieu de se plaindre, au lieu de dire pourquoi Seigneur tu as permis cela, au lieu de dire mais je me suis donc trompé quand j'ai cru que je devais venir en Macédoine, et puis c'est ça, viens en Macédoine et aide-nous, et puis voilà que nous sommes dans cette misère. Mais non, c'est pas cela. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Vous savez, c'est quelque chose de merveilleux. Et si vous connaissiez la puissance de la louange, cette puissance de la louange enlève les douleurs. Quand on se met à louer le Seigneur, même dans une situation difficile, douloureuse, le Seigneur intervient même au point de vue physique. Et alors, ils ont pensé à cela. Si nous nous plaignons, ben, les prisonniers qui sont là tout autour, qu'est-ce qu'ils penseront de nous? Ils avaient un témoignage à rendre. Dans quelle situation? Battu de verge, affligé et en prison. C'est là que le témoignage devait être donné. Qu'est-ce que c'est que rendre témoignage? C'est vivre de la foi au Seigneur Jésus, indépendamment de nos circonstances. Alors les prisonniers les écoutaient. Et c'est tellement beau que leur louange, comme on le disait à la clairière des Indiens, est montée au ciel, et alors il y a eu une réaction du ciel. Pour ces hommes affligés et battus, le ciel a permis qu'il y ait un tremblement de terre. À minuit, la terre a tremblé. Et vous avez eu au Québec un tremblement de terre. Je l'ai connu, on était à Châteauguay quand ça. C'était comme s'il y avait un train bruyant qui passait sous la maison de Châteauguay. Ça faisait comme ça. Moi, j'étais en train d'écrire au tableau et ça a écrit tout drôle, tout croche. Hein? Eh bien, voilà. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les fondations de la prison ont été ébranlées, les portes se sont disjointes, et puis toutes les portes se sont ouvertes, et mieux que ça, les chaînes sont tombées. Hein? Le tremblement de terre a tout fracassé. Et pas seulement pour Paul et Silas, mais pour tous les prisonniers qui ont été détachés. Alors, évidemment, le geôlier qui dormait, il a été réveillé aussi par le tremblement de terre. Et lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes, il a tiré son épée et il allait se tuer car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Et il devait répondre pour eux. Et ça aurait été la condamnation à mort, comme ce fut la condamnation à mort au temps d'Hérode, hein, quand l'apôtre Pierre a été délivré. Hérode a fait exécuter tous les gardiens qui n'y pouvaient rien, mais ils ont été exécutés. Alors, Paul, quand il voit que ce geôlier va se tuer, va se suicider, il crie de toutes ses forces. ne te fais pas de mal. Nous sommes tous ici. Et vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire que les autres prisonniers ne se soient pas sauvés? Parce que Dieu voulait sauver qui? Le geôlier. Alors, ils sont restés. Et puis, ils avaient entendu l'évangile, les prisonniers. Alors, le gardien demanda de la lumière, il se précipita dans la cellule, et tout tremblant de peur, habituellement, qu'est-ce qui tremble devant un geôlier? C'est le prisonnier, hein? Eh bien, c'est le contraire. Il est tout tremblant de peur. Il se jette aux pieds de Paul et Silas, puis il les fit sortir, et elle leur dit, messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Que faut-il faire pour être sauvé? Et ils répondirent, c'est une merveilleuse parole, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous voyez, quand le salut entre dans un cœur, c'est aussi la famille. Mais je voudrais vous dire tout de suite qu'il ne faut pas isoler ce verset et dire, eh bien voilà, pour être sauvé, il n'y a qu'à croire, hein. C'est ce que j'ai appelé le salut n'y a qu'à. Hein. N'y a qu'à croire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, ça y est, c'est bon, hein. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, salut n'y a qu'à. Hein. C'est pas le salut n'y a qu'à. Hein. Il était question, il fallait que ça à lui, le geôlier voulait se suicider. Donc il était perdu, physiquement il était perdu. Alors Paul l'a arrêté, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Tu auras la vie sauve d'abord, hein. La vie sur la terre. Puis ensuite, le salut. Vous comprenez, il y a les deux choses. Alors, il ne faut pas sortir un verset de son contexte, puis le dire, ben voilà, moi, je ne connais qu'un verset, puis je dis à tout le monde, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Je mets ça même sur une plaque dans ma voiture, devant, puis je fais de l'évangélisation comme ça. Le salut n'y a qu'à, partout où je vais, puis quitte à ce que ma plaque soit couverte de boue, et le nom de Jésus aussi, j'ai le salut n'y a qu'à. Non. C'est pas comme ça que l'on fait. On met pas le nom de Jésus à toutes les sauces. Il faut faire attention. Parce que vous voyez, si vous lisez plus loin, et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Voilà comment on est sauvé. Ils lui ont annoncé la parole du Seigneur. Il y a eu un entretien biblique, c'est-à-dire ils ont pu lui présenter le salut à lui et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il y a eu vraiment une rencontre spirituelle et le gardien les prit avec lui à cette heure même de la nuit et il lava leurs blessures. Donc une fois sauvés, il y a eu des œuvres. Il a pensé à ses corps meurtris. Et il a pansé leurs blessures. Il fut aussitôt baptisé ainsi que tous les siens, mais il n'est pas question de se poser s'il y avait des bébés, ça n'est pas dit. C'est pas ça qui est important, hein. Ça n'est pas dit, alors ne discutons pas là-dessus. Mais tous ceux qui étaient dans sa maison ont entendu la parole, et il fut baptisé, lui et tous les siens, qui avaient entendu la parole. Il fit monter Paul et Silas dans sa maison, et il leur offrit à manger. Il a les pieds sur la terre, ce geôlier. Il sait bien qu'ils n'ont pas mangé, et alors il leur fait à manger. Voilà les œuvres qui suivent la foi, et qui prouvent l'authenticité de la foi du geôlier. Cet homme et toute sa famille furent remplis de joie, que c'est beau. Quand c'est Dieu qui opère, quel changement! Parce qu'il avait cru en Dieu. Voulez-vous être rempli de joie? Oui. Parce qu'il avait cru en Dieu. Parce qu'il avait cru. Il a été rempli de joie. Et vous? Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans votre cœur, mais est-ce qu'il y a de la joie ce soir? Vous pourriez avoir le cœur rempli de joie. On est à quel verset? Si vous avez suivi. Verset 35. Alors, quand il fit jour, les fonctionnaires romains envoyèrent dire aux gardiens, relâche ces gens. Ils avaient peut-être un peu réfléchi. Hein. Et le gardien vint annoncer à Paul, disant, les autorités ont envoyé l'ordre de vous relâcher. Vous pouvez donc sortir et vous en aller en paix. Mais Paul dit aux agents, ils nous ont fait battre en public sans que nous ayons été jugés régulièrement. Vous voyez, hein, c'est comme en Chine. On ne juge pas régulièrement. C'est mieux cette histoire de ne pas juger régulièrement les gens puis de les battre. C'est toujours le même monde. Ils nous ont fait battre en public sans que nous ayons été jugés régulièrement. Nous qui sommes des citoyens romains, et un citoyen romain, les autorités n'avaient pas le droit de le frapper. C'est ça? Vous voyez la suite? Ils n'avaient pas le droit, mais vous voyez, Paul n'a pas dit tout de suite, « Ah, arrêtez, ne me frappez pas ici, je suis un citoyen romain. » Il s'est laissé frapper. Il n'a pas décliné sa nationalité. Et il a été pris pour un sale juif et on l'a frappé. Alors, voilà, ils ne nous ont pas jugés, ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, ils veulent nous faire sortir en cachette. Ah non, il a du caractère, Paul. Et il a raison. Eh bien, non. Il faut savoir dire non. Qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. Les agents rapportèrent ces paroles aux fonctionnaires romains. Ceux-ci furent effrayés en apprenant que Paul et Silas étaient des citoyens romains. C'est eux qui risquaient d'être condamnés. Ils vinrent donc leur présenter des excuses. Puis ils les firent sortir de prison et les prièrent de quitter la ville. Quand Paul et Silas furent hors de prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Où sont-ils allés? Ils sont allés chez leur Lydie, chez cette femme qui les aimait et qui était toute heureuse de leur donner sa maison. Ils se rendirent chez Lydie et après avoir vu les frères et les avoir, qu'est-ce qui a encouragé les frères? C'est Paul, que c'est beau ça. Alors qu'on aurait pu croire que c'était eux qui avaient besoin d'être encouragés, après une telle épreuve, c'est eux qui avaient encore des paroles d'encouragement pour les autres. Eh bien, c'est ça un témoignage. Être ses témoins, c'est être capable d'encourager quand on pourrait être découragé. Parce qu'avec le Seigneur, on est toujours renouvelé dans sa grâce. De sorte que vous voyez que Paul a vécu vraiment ce qu'il écrivait. Plus tard, quand il était prisonnier à Rome, il a écrit aux Philippiens. Et qu'est-ce qu'il leur disait? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dis, réjouissez-vous. Et quand les Philippiens recevaient une lettre du prisonnier de Rome qui disait réjouissez-vous, il n'a pas changé. Il est toujours le même. Quand il était au milieu de nous, quand il était avec nous, c'est bien comme ça qu'il vivait. C'est lui qui nous encourageait après avoir été battu. Il avait encore des paroles d'encouragement. Mais bien aimé, c'est de tout mon cœur que je demande au Seigneur et à son esprit de nous convaincre et de nous renouveler dans notre témoignage afin que nous ne soyons plus des plaignants, mais des gens adorants. Amen. Je vous propose un moment de prière. Et demain matin, eh bien, nous étudierons le chapitre 17, qui n'a que 34 versets, alors que celui-ci en avait 40. Nous avons pu terminer cette journée de dimanche, un dimanche pas comme les autres, un dimanche où nous avons éprouvé que tu étais là, avec nous-mêmes dans notre faiblesse, dans nos moments de défaillance. Tu étais là, notre force, notre consolation. Et nous voulons te dire merci de tout ce que tu es. Tu es tellement tendre, tu es tellement bon. Nous nous jetons dans tes bras. Et nous voudrions que d'autres que nous puissent le faire aussi. Pour connaître cette divine étreinte que tu donnes à ceux qui viennent à toi. Tu n'as jamais repoussé une âme. Oh, qu'il y ait ce soir des âmes qui te donnent de la joie dans le ciel et que tu puisses mettre la joie dans leur cœur. C'est notre prière. Notre attente est en toi. Nos yeux sont sur toi. et nous te bénissons de garder ce camp et de bénir tous les enfants qui s'y trouvent. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen.